gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Haïti, Irak, Afghanistan, Kirghizistan et on pourrait poursuivre la liste, sont autant d'endroits où il s'est rendu pour son travail. À titre de réalisateur à l'information à Radio-Canada, se rendre sur les lieux où surviennent des tensions politiques, des drames humains, des catastrophes naturelles, relève de son quotidien. Nous avons le plaisir d'accueillir François Mouton, réalisateur à l'information à la Société Radio-Canada. Bonjour François.
Bonjour cher Armand.
Vous avez parcouru le monde dans des situations qui ne sont pas toujours faciles. On a pu en parler un peu la semaine dernière, mais j'aimerais qu'on poursuive sur cela. Quand on se retrouve à l'étranger, il y a des choses, j'imagine, qu'on apprend à faire et à ne pas faire.
Effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dirais que la principale chose, la chose qui est vraiment la plus frappante, puis qu'il faut être capable de chasser rapidement pour rester efficace, c'est la première fois où on voit une personne décédée au sol. Ici, à Montréal, la plupart des gens n'auront pas à voir ça. Quand on est arrivé à Haïti en 2010, après le tremblement de terre principalement, il y avait des corps partout. C'était facile à ce moment-là de raconter ce qu'on voyait, mais à un moment donné, il fallait passer par-dessus, parce qu'il y avait des survivants aussi qui étaient là. On avait à l'époque un fixeur, Jacqueline Télémanque, qui est une personne qui vit à Montréal maintenant. Et puis, Jacqueline, quand on embauche des gens comme ça, c'est pour nous donner des facilités là-bas. C'est une personne locale qui est en mesure de pouvoir nous diriger dans la ville. Et puis, je voyais bien que Jacqueline ne fonctionnait pas, qu'il y avait des problèmes, puis que c'était vraiment difficile. Puis, à un moment donné, il éclate en sanglots, puis il me dit, tu sais, François, j'ai perdu 70 de mes amis dans le décompte que je viens de faire. Et puis, à chaque fois où on passait, à chaque endroit où on visitait, c'était toujours les mêmes histoires. Oui, toujours la même odeur, surtout, parce que l'odeur est hyper importante. Mm-hmm. On n'avait pas vécu ça à San Francisco, non. Parce que les gens étaient sur une autoroute.
Exact.
Mais quand tu marches, et puis il y a cette espèce de liquide qui sort d'un humain, mais là, c'est une autre réalité. C'est
oui, vraiment une autre puis il faut savoir avoir une pudeur. Il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, qui n'ajoutent rien de toute façon à la compréhension du drame qui vient de survenir. Et en tant qu'humain, parce que on est fait de chair et d'os et d'émotions, mm-hmm. On ne peut pas rester insensible, malgré le travail qu'on a à faire, on ne peut pas rester insensible à la situation qui se vit autour de soi.
Ça, c'est clair. Mais la chance que j'ai eue dans tous ces voyages-là, c'est que j'ai travaillé avec Frédéric Nikoloff, entre autres, qui est probablement un des journalistes les plus humains que j'ai connus. Et puis l'autre avec qui souvent j'ai travaillé, c'est Jean-François Bélanger. Je pense qu'on n'a pas besoin de présentation. Jean-François est un homme absolument... C'est incroyable la capacité de travail que ce gars-là peut faire. Mais en plus... Son humanité, c'est quelqu'un qui est profondément sensible. Je me rappelle, à Haïti, il avait dit une chose à un moment donné, parce qu'il fallait faire une espèce, il y a eu une espèce de téléthon qui avait été faite par les différents médias. Puis Jean-François, la première phrase qu'il avait récitée dans son texte, il avait dit, j'ai pourtant à peine 40 ans, et déjà j'ai trop vu de choses pour un homme de mon âge. Et puis, Jean-François a vécu en Afrique pendant des années, donc il y a eu des tonnes d'exactions. Et puis, nos routes se sont séparées un peu. À ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu plus d'Irak et d'Afghanistan, et puis le Kirghizistan.
Est-ce qu'on réussit à apprivoiser, parce que la phrase que vous venez d'évoquer démontre à quel point ce peut être troublant, est-ce qu'on réussit à apprivoiser ce genre de drame, de côtoyer la mort, de côtoyer la misère, la souffrance? Est-ce qu'on s'y habitue?
Je pense que non. Je pense qu'on s'y habitue jamais. Parce que de toute façon, c'est pas normal. Mm-hmm. On va voir nos parents mourir. On va voir des amis mourir. Mais de voir des gens comme ça qui se sont fait souvent assassiner, c'est pas nécessairement normal.
Et comment on se protège à l'égard des séquelles que ça peut laisser au plan...
J'ai longtemps pensé qu'après Haïti, que j'avais souffert un post-traumatique. J'ai souvent pensé que c'était ça. Finalement, en lisant sur le dossier, c'était pas ça. Mais je me rappelle d'avoir fait plusieurs cauchemars en revenant. Parce que tu les revois, ces gens-là.
Oui, c'est sûr.
Puis je me rappellerai toujours d'un chien qui était parti avec une pièce. Puis visiblement, la pièce faisait partie d'un corps. Fait que ça, ces choses-là, c'est vraiment... Comment le chasser? Il faut le chasser vite parce qu'on est sur le terrain. Et puis, sur le terrain, on n'a pas le temps. Et le problème, c'est que ce qu'on fait comme travail, ben, à chaque heure, c'est un deadline qui est passé. C'est une heure de tombée qu'on reverra jamais.
Et on fait ce travail pour raconter, pour dire ce qui se passe, pour mieux comprendre, pour mieux sensibiliser aussi le monde qui est loin souvent de cette catastrophe naturelle.
Puis l'idée, c'est surtout que les gens sont à Montréal. Donc, leur expliquer la réalité de ce qu'on vit, mais là, c'est là que l'art de raconter, ben, c'est ça.
Curieusement, la prochaine chanson a pour titre « Quelqu'un m'a dit ». Vous racontez des histoires dans vos reportages. Mmh. Vous proposez Carla Bruni, cette auteure-compositeur-interprète, qui est aussi, faut bien le dire...
Ex-madame
Sarkozy.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est l'époque où ce qu'elle faisait était particulièrement agréable. « Quelqu'un m'a dit », moi, j'ai toujours dit... En fait, c'est la chanson que je voudrais à mes funérailles.
Ah oui, pourquoi donc? Rapidement.
Écoutez-la, vous allez comprendre.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos chagrins, il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Alors, on n'ira pas dans le détail pourquoi vous souhaiteriez cette chanson pour vos funérailles. Ben, on a compris, je pense.
Elle est, quand on l'écoute comme il faut, là, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Ça dit tout.
Oui. C'est difficile d'établir des liens dans le métier que vous faites parce que on est toujours sous tension, parce que on est souvent aussi éloigné de sa résidence principale. Est-ce que ça bouscule une vie?
Oh, ça bouscule complètement une vie. Je pense qu'en grande partie, la séparation avec mon épouse, ben, c'est lié à ça. C'était une pression incroyable. Je me rappelle à des moments, surtout à TVA, elle arrivait de tournage, parce qu'à cette époque-là, elle était au match de la vie. Elle arrivait de tournage, elle me voyait dans le garage, dans le sous-sol de Télémétropole, elle me voyait partir à courir, sauter dans mon véhicule. Là, elle savait que ce soir, je n'étais pas à la maison. Parce que je n'avais pas encore eu le temps de l'appeler, parce qu'on venait juste de me dire go, 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 il faut partir. Puis c'est arrivé tellement de fois, ce genre d'affaire-là. Surtout à l'époque, je travaillais avec Gaëtan Giroir, imagine.
Oui, alors là, vous racontez que, bon, votre couple a un peu explosé, c'est le cas de le dire, et parce que elle faisait aussi un métier très semblable au vôtre.
Elle faisait un métier qui était beaucoup plus organisé, parce qu'aux actualités, aux affaires publiques, des émissions, au moins ont des horaires. Aux nouvelles, il n'y a pas d'horaire. Parce que l'horaire change à partir du moment où il y a une catastrophe. Puis mon rôle à l'époque, c'était de couvrir les catastrophes. C'était ça mon rôle.
Alors je vais vous proposer une pièce qui est un peu plus légère, qui va peut-être permettre d'oublier toutes les difficultés de couple que l'on peut vivre.
Bon, quand c'est normal, ça arrive.
Oui, qui arrive dans la vie de tous les jours. On souhaite ça à personne, mais parfois, bon, les tensions associées au travail amènent d'autres types de tensions. Mm-hmm. Là, je vous présente Nicole Rieux, et la chanson a pour titre « Je m'envole ». Un mot sur Nicole Rieux, elle a commencé sa carrière en faisant les premières parties des spectacles des grandes vedettes au début des années 70. Mm-hmm. Le succès est arrivé avec « Je suis », extraite de la comédie musicale « Attention » à l'été 1974. Son passage à l'Eurovision en 1975 est remarqué, où elle interprète entre autres la chanson que nous allons entendre, « Je m'envole ». On l'écoute.
Si je chante avec les oiseaux, si les torrents sont mes amis, je peux aimer quand il fait beau et disparaître avec la pluie.
Ça fait du bien, François Mouton, parfois d'avoir des petites chansons balades comme cela, un peu légères.
Oui, oui, tout à fait.
Et qui nous amènent. Oui, qui nous amènent dans un autre état d'esprit. Juste vous dire que c'est malheureux, je trouve, qu'on n'entende plus beaucoup Nicole Rieux. Vous avez vu, elle a très belle voix. Mm-hmm. Et, cependant, elle reste active. Un nouvel album sera en production et elle a organisé dans son village d'Ariège, en France, un festival dédié aux auteurs-compositeurs en mars 2020. 2016. Il se fait un grand succès artistique et public et on pense que ce festival va devenir récurrent. Alors, on va le retrouver année après année. Nicole Rieu, qui occupe encore, peut-être un peu moins que d'autres, mais qui occupe encore la scène de la chanson. François Mouton, Radio-Canada est en profonde mutation. Je vous demanderai pas de commenter parce que je veux pas vous mettre dans une situation embarrassante. Mais il faut dire que cette société a beaucoup, beaucoup changé au fil du temps. Et là, on entend toutes sortes de choses, qu'on va vendre la maison, qu'on va s'installer ailleurs. On sait ce qui est arrivé avec le costumier. C'est un peu dommage, non? Je sais que vous pourrez peut-être pas beaucoup commenter à cet égard.
C'est certain que je peux pas parler contre mon employeur.
Bien sûr.
Mais une chose est certaine. C'est, moi, comme personne qui l'a vécu, qui les a détestés, parce qu'à l'époque, on était à TVA, on apprenait à les détester, j'ai découvert une entreprise qui est absolument, qui a des moyens absolument incroyables de faire à peu près n'importe quoi. Et ce qui est drôle dans ça, c'est que on est après, le projet sur lequel j'ai été les deux derniers mois, là, c'est de faire de la réalité virtuelle en 360 degrés, le fameux VR là, qu'on entend parler partout, là, le gros buzz. Là. Mais j'en produis à mon bureau. Mais c'est ça qui est vraiment agréable de Radio-Can. On est capable de faire toutes sortes de projets. Puis on a les moyens de nous libérer pour les faire. Ça, c'est particulier.
Et on a besoin de cette radio et de cette télévision publique qui occupe un espace que malheureusement, le secteur privé ne peut pas occuper en termes de moyens, en termes de missions et de mandats, tout comme, par exemple, la radio comme celle que nous faisons ici a aussi sa place. Elle est très différente de la radio commerciale. Elle permet d'ouvrir la voie des discussions comme celle que nous avons en ce moment.
Et puis, ce qui est important de garder en tête, c'est que Radio-Canada a une identité qui est propre, un branding qui est tout à fait à elle. Et puis, l'idée, c'est de constamment produire un contenu de qualité. C'est notre... On est condamné à ça.
Oui. Alors, des radios comme celle de Radio-Canada, comme celle de Radio-VM, participent à la diversité des contenus et elles ont leur place et on doit faire en sorte de les protéger. Alors d'ailleurs, un grand merci d'être à cette antenne.
Ça me fait plaisir.
Et ça nous permet de mieux comprendre cet espace public que nous occupons. On va enchaîner avec... là, vous nous proposez quoi?
Là, on s'en va dans un autre environnement.
Ah oui, ouais, tout à
complètement.
Fait.
Mais c'est un environnement que j'ai découvert, ça, à l'époque, quand mon fils, mon plus vieux, est un violoniste, mais un violoniste classique. À une période, il commençait à avoir de la misère à se concentrer. Les pièces classiques, c'est ardu, c'est difficile. Il avait besoin de s'éclater. Et puis, c'est là qu'on a découvert ce petit groupe-là qui s'appelle les Cowboys Fringants. À l'époque, c'était un petit groupe.
Oui, parce que maintenant, c'est un grand groupe.
De toute façon, ils sont incroyables. C'est vraiment un groupe absolument incroyable. Puis ma pièce, moi, c'est Joyeux Calvaire. C'est vraiment...
Et pourquoi donc?
Vous allez comprendre.
C'est l'histoire de Loulou Lapierre, une petite mère ordinaire qui travaille à temps partiel comme femme de chambre dans un hôtel. Elle endure dans son petit deuxième la vie triste d'un HLM et des matinées toujours blêmes. À la fois 25 ans et déjà trois enfants de deux pères différents. Ils se sont évanouis dans l'air en la laissant dans misère sans pension alimentaire. Joyeux calvaire sous un séance suppo entre les caisses de bière et les bébés des flots. Joyeux calvaire pour Loulou la pierre qui est bon sans se dire qu'au fond la vie est pas si pire. Est à côté avec un couplot, un pauvre type toujours pacté qui joue aux jeux vidéo. N'en a rien de ses journées, dans toutes ses après-midi. Et puis le soir il sort avec ses amis pour faire la rumba toute la nuit. Il déteste les enfants, d'ailleurs ils engueulent tout le temps. Puis ils pètent les plombs à tout bout de champ. Mais quand elle parle de larguer, il se met à la supplier comme un inapte sans fierté. Joyeux calvaire sous un silence suppo entre les caisses de bière et les bébelles des flots. Joyeux calvaire pour nous la pierre qui aime autant se dire qu'au fond la vie est pas si pire. Thank you. elle en a son voyage, de sa vie remplie de nuages. Elle vient chez nous se boire une tisane loin du tapage. Et de la chicane, on rit, on jase de nos problèmes. On chiale un peu contre le système qui favorise toujours les mêmes. En se disant qu'un matin, étant donné qu'on s'aime bien, on devrait partir au loin. Et dans un éclat de rire, elle finit toujours par me dire que ça pourrait pas être pire. Joyeux calvaire, sous un ciel en stucco, entre les caisses de bière et les bébés des flots. Joyeux calvaire, pose-nous la pierre, qui aime autant se dire qu'un jour, on va bien s'en sortir.
Donc maintenant, tout le monde connaît Loulou Lapierre. Non, c'est, écoute, leur répertoire est absolument incroyable. On aurait pu mettre Impala Blues. Ils ont tellement une richesse de textes. Jean-François Posé est un compositeur incroyable.
Alors, c'était les Cowboys Fringants, proposés par François Mouton. On vient d'entendre Joyeux
Calvaire.
Que je
recommande.
Oui, absolument. Vous avez un choix de musique assez éclectique.
Mais ça, j'adore la musique. Je suis un musicien pourri. Pourri.
Vous ne jouez d'aucun instrument.
Je suis même pas capable de chanter sa note. C'est incroyable, c'est pathétique. Mais j'adore chanter. J'adore la musique. En auto, je chante tout le temps. C'est une exutoire incroyable.
Revenons au métier que vous exercez, celui de réalisateur en information. Quel est le principal défi du réalisateur quand vous amorcez un reportage?
En fait, c'est que je résumerais ça simplement, que le jello pogne. parce qu'on part une équipe, il y a un caméraman qui a un caractère, il y a un journaliste qui a un caractère, il y a un réalisateur qui a un caractère. On va vivre des tonnes d'embûches, on va vivre une proximité incroyable quand normalement, on ne vivrait pas ensemble. Puis je me rappellerai toujours d'une histoire en Afghanistan, dans un petit... Il y a deux façons de voyager là-bas, avec l'armée ou en civil discret. Moi, j'ai toujours préféré avec Frédéric Nikoloff partir en civil discret. C'est moins dommageable parce qu'on n'est pas associé à l'armée. On n'est pas associé à celui qui vient s'imposer. Mm-hmm. Donc, on peut rencontrer les gens, on est capable d'avoir une vie plus simple. Et puis, à un moment donné, en pleine nuit, il y a un tremblement de terre, un 6.4. Puis c'est sec, rapide, pouf, ça arrête d'un coup sec. Moi, je suis debout. Le caméraman est déjà dehors avec tout son équipement. Puis Frédéric, lui, dort. Fait que c'est ça la différence. Le problème, c'est qu'on est toujours, on ne sait jamais vraiment comment les gens vont réagir. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer. On va le vivre quand il va se passer quelque chose. Fait que pour être capable de produire quelque chose, un reportage qui va se tenir, ben ça prend un chef d'orchestre. Puis c'est là que le réalisateur.
Vous vous souvenez sans aucun doute, on va raconter une petite anecdote. Lorsqu'on a fait le voyage à San Francisco en 89, on est arrivé très tard parce que l'aéroport était fermé, donc on avait dû atterrir à Los Angeles. Et on a pris la voiture pour se rendre à San Francisco et on est arrivé juste en temps pour le bulletin qui à l'époque était à 23 heures, et on communiquait par téléphone, et on s'est retrouvé le long de la baie de San Francisco où il n'y avait pas d'électricité. Et le lendemain, histoire de vous dire à quel point parfois ça peut être périlleux quand on arrive sur un lieu qu'on ne connaît pas, on rencontre Claude Raymond qui lui couvrait le baseball, parce qu'on était en pleine série mondiale, vous vous souvenez, François?
Oui, on était au Candlestick Park.
Et qui nous raconte, avez-vous vu le journal, l'endroit où vous étiez hier soir? Il y a eu deux meurtres. Il y avait un passager de voiture qui était frustré parce qu'il n'y avait pas de circulation. Quelqu'un s'était improvisé signaleur au coin d'une rue. Et quelqu'un a sorti son revolver et l'a abattu. Et on était dans ce quartier-là, et qui était considéré comme un quartier excessivement dangereux, mais on ne le savait pas.
Je dois sûrement te souvenir, à cette époque-là, Roland Martin était sorti pour faire du visuel.
Roland était
notre caméraman. Oui. Et puis, quand il a allumé sa lumière, il y a quelqu'un qui a dit « Shut that light off ».
Oui.
Puis Roland, qui est habituellement quelqu'un qui a du caractère, a décidé de monter dans la voiture, puis il nous a simplement dit « Je pense qu'on s'en va ».
Oui.
Il avait compris le message.
Oui, je pense que dans des situations comme cela, lorsqu'on se retrouve à l'étranger, il est important d'être à l'écoute et d'être très...
Très à l'écoute. Le sixième sens, là, il devient hyper important.
Et sensible à son environnement. Mais là, on va terminer le bloc, François, avec une belle pièce musicale qui va nous permettre d'être très à l'écoute. Le compositeur, c'est Thomas Newman, qui a écrit beaucoup de musique de film. Ce que nous allons entendre s'appelle Whisper of a Thrill et c'est tiré du film Meet Joe Black. Vous allez voir, c'est très beau, c'est très apaisant. Ça va nous permettre peut-être de réfléchir à ces situations.
Déjà, jeune.